Bien le bonjour à tous en ce mercredi 5 octobre 2022. On est content d'être parmi vous une fois de plus ce matin pour une bénédiction matinale. Dans cette thématique, on a entrepris il y a maintenant plus de 13 ou 14 leçons, même si officiellement on est à la 11, il y en a certaines qui étaient divisées en 3 ou 4, donc on est peut-être autour de la 16e séance, mais 11e leçon, donc dans Hébreux au chapitre 11, et puis la thématique sur l'ensemble de ces 26 ou 27 semaines sera « C'est par la foi ». Alors, très content de vous recevoir encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit une suite logique à l'enseignement d'hier. On voit la vie de Jacob comme un exemple de foi, et tout particulièrement dans une illustration que nous donne le chapitre 11 d'Hébreux. Comme vous savez, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est ce qu'on appelle les héros de la foi. Certains vont dire le temple de la renommée des hommes de foi. C'est un peu très nord-américain comme terminologie, puisque ça fait référence un peu à certains musées où on fait l'éloge des sportifs qu'on a en Amérique du Nord, particulièrement au niveau du hockey. Moi, je préfère l'appeler tout simplement le chapitre des héros de la foi. Donc, c'est Hébreux 11. Vous pourriez retrouver la même histoire dans Genèse au chapitre 48. Ce matin, on ne prendra pas le temps de le lire, mais peut-être que je pourrais changer d'idée. Mais on va voir. Donc, Genèse 48, c'est cette même histoire. Et c'est la bénédiction que Jacob donne au fils de Joseph, son fils perdu qu'il retrouve bien des années plus tard, son fils qu'il croyait mort, qu'il retrouve bien des années plus tard en Égypte. Et Jacob étant maintenant au crépuscule de sa vie, étant maintenant à la fin de sa vie, va tenir à bénir les deux fils de son fils Joseph, donc Éphraïm et Manassé, qu'il va bénir pour avant de partir. Donc, prions et après ça, on lit le texte pour ce matin. Alors, Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce, pour ta bénédiction d'être une fois de plus réunis pour étudier ta parole, pencher nos regards dans les Saintes Écritures et être édifiés, fortifiés et instruits par elles. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main, d'ouvrir notre entendement, notre pensée, afin, Seigneur, que nous puissions pleinement recevoir ce que tu avais pour nous, prévu, préparé, établi pour nous aujourd'hui. Bénis ma sœur, bénis mon frère qui se joignent à nous en direct ce matin. Bénis aussi tous ceux qui regarderont cette vidéo en différé dans quelques heures, dans quelques jours, voire même dans quelques années, qu'une même grâce et une même bénédiction se répandent sur chacun d'entre eux. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, Hébreux 11, le verset 21. Et après ça, oui, je vais y aller dans le texte de Genèse 48, tout simplement pour être sûr qu'on on s'imprègne vraiment de l'histoire qui nous est ici relatée. Donc, Hébreux 11, 21 nous dit « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Je répète, « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Alors ici, on nous dit qu'il va bénir les fils de Joseph. Alors, on va aller voir ce texte dans Genèse, au chapitre 48, une lecture d'environ 22 versets, si je ne m'abuse, donc du verset 1 jusqu'au verset 22. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu. « Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Jacob rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ces peuples ou ce pays à ta postérité, après toi, pour qu'elle possède le pays à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Éphrata qui est Bethléem. Israël regarda, ou Jacob regarda, les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Jacob dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux de Jacob étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Joseph leur donna un baiser et les embrassa. Jacob dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait même voir ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père. Il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche de Jacob, et Manassé de sa main gauche à la droite de Jacob. Il les fit approcher de lui. Jacob étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner du dessus de la tête d'Éphraïm et la diriger vers celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Pas ici, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Et il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. » Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Relisons simplement le verset 21 d'Hébreux 11. « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Hier, on a vu la vie de Jacob, jusqu'à un certain point, surtout dans un épisode tout particulier où, avec subterfuge, avec ruse de sa maman Rebecca, il va voler, entre guillemets, la bénédiction paternelle qui devait revenir à son frère Ésaü. Isaac avait été informé depuis la conception même de Jacob et Ésaü, jumeaux, dans le sein de leur mère Rebecca. La Bible nous dit qu'ils se battaient déjà et que Dieu va révéler à Rebecca, donc on peut le présumer aisément, aussi à Isaac, son époux, que les enfants qu'elle porte représentent deux nations et que ces nations vont se battre, qui se battent déjà dans son sein. Mais que le plus jeune va supplanter le plus âgé. Le plus âgé étant Ésaü, sort en premier, et Jacob lui tient le talon. Et cette image dans la culture juive, on a expliqué hier, que c'était cette image, ce signe prémonitoire, ce signe annonciateur, comme quoi Jacob allait supplanter son frère Ésaü. On a vu qu'il a acheté d'Ésaü son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, et plus tard, avec la ruse de sa maman Rebecca, qui préférait Jacob alors que Isaac préférait son fils Ésaü, Jacob va venir à obtenir la bénédiction paternelle. Et quand Ésaü s'en rend compte, quand Isaac, le papa, voit ce qui vient de se passer, eh bien, Isaac abdique et par son comportement confesse qu'il s'est opposé à la volonté de Dieu, opposé à ce qu'il savait comme volonté appointée de Dieu, et qu'il va tout simplement maintenant s'y conformer. C'est un peu la même chose qui se passe lorsque, près de sa mort, Jacob, des années plus tard, va appeler Joseph avec ses deux fils. On se rappelle l'histoire de Joseph. Il est le fils le plus jeune de Jacob. Il est le préféré de Jacob, ce qui soulève la jalousie, voire la haine de ses frères, qui vont le vendre à des marchands madianites qui vont l'amener jusqu'en Égypte. Et puis Joseph va devenir donc esclave, va même être emprisonné à un moment donné sous une fausse accusation d'agression sexuelle. Et puis Dieu va opérer différentes choses à travers lui, le sortir de prison pour qu'il devienne l'intendant du pharaon. Chose pensée, prévue, planifiée par Dieu, afin que des années plus tard, étant maintenant un des hauts placés d'Égypte, il puisse recevoir sa famille à leur insu au départ pour les protéger de la famine qui s'abat sur toute la région. Et Joseph révélant son identité à ses frères, ils vont ramener, ou plutôt amener Jacob jusqu'en Égypte pour qu'il voie son fils qu'il croyait mort, puisque ses frères avaient dit à leur père comme quoi Joseph avait été tué par une bête sauvage. Et en fait, il avait été vendu par eux. Et là, on arrive, des années plus tard, Jacob est maintenant en Égypte auprès de son fils Joseph. Joseph a deux fils, Éphraïm, Manassé. Et on arrive à la bénédiction. Alors la bénédiction, comment elle se passait à l'époque? C'était avant même l'ère de Moïse, donc avant même la loi mosaïque. Et cette bénédiction était une tradition dans toutes les contrées du Proche-Orient. On prenait les fils qui venaient et on bénissait tout d'abord le fils aîné, lui accordant en général une double bénédiction comparativement aux autres frères. Si on avait 10 enfants, ou 8 enfants plutôt, donc on répartissait en 10 la bénédiction. Et le fils aîné avait une double part. Donc le fils aîné avait la bénédiction 1 et 2. Et tous les fils qui suivaient, les 7 autres, avaient de la bénédiction 3 jusqu'à 10. Une portion pour chacun des fils, mais une double portion pour le fils aîné. Lorsqu'il y avait jumeaux, on bénissait de cette double bénédiction aussi le fils aîné. Et dans plusieurs cas, la bénédiction qui était même accordée au fils aîné pouvait être beaucoup plus grande que celle qu'on accordait aux autres. C'est un peu ce qui s'est passé dans le cas de la bénédiction paternelle d'Isaac, qu'il croyait faire à son fils Ésaü, mais qu'il faisait en fait à Jacob. Jacob s'est retrouvé avec une bénédiction si ample qu'il ne restait rien sans la vie, qu'il ne restait rien pour son frère Ésaü, si ce n'est que en voyageant et en travaillant fort, tu pourras te soustraire de ton frère et vivre indépendamment de lui. Alors Jacob, qui a profité de la grande bénédiction de son père, se retrouve un peu comme Abraham, comme Isaac, et avec peu d'héritiers pendant un certain temps. Dieu bénit sa première femme Léa, mais Rachel est infertile. Et ça prend un certain temps avant que les enfants n'arrivent du côté de Rachel. Jacob est privé de Joseph par la duperie de ses autres fils, et il se rattrape en bénissant les fils de Joseph et en leur accordant à chacun d'entre eux une demi-bénédiction comme celle qui aurait dû revenir à leur père. Quand on combine les deux, c'est donc la bénédiction de Joseph qui, au lieu d'être sur Joseph, va être sur Éphraïm et Manassé. Et si Joseph allait avoir d'autres fils, ceux-ci profiteraient de la bénédiction de leur frère aîné. Alors la Bible nous dit, par la foi, Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph. Par la foi, Jacob mourant bénit. Bien que Jacob avait vécu une vie assez charnelle, on se rend compte que Jacob va facilement duper, va facilement profiter des situations autour de lui pour s'enrichir, pour croître au profit des autres, sa foi pouvait tout de même lui permettre de voir plus loin que l'étape de la mort. Il pouvait lui permettre de voir beaucoup plus loin que tout simplement cette vie physique. Assurément, il avait été un bon vivant. Assurément, il avait prospéré et il était rendu maintenant un riche propriétaire, un riche éleveur. Mais Jacob voyait quand même les choses plus loin. La Bible nous dit, et on l'a vu il y a quelques semaines ou quelques jours dans le même passage d'Hébreux 11, où on nous dit que tant Jacob que son père Isaac et que son grand-père Abraham, même en vivant dans la terre promise, continuaient à vivre dans des tentes parce qu'ils aspiraient à une cité céleste plus grande que celle qui était ici-bas sur terre. Alors Jacob, arrivé à la fin de sa vie, était quand même capable de voir plus loin que l'étape de sa mort physique. Certains d'entre nous, on est confrontés à la mort à un moment donné et on pense que c'est une fin ultime. Notre vie en vient à un terme et notre vie physique, effectivement, peut arriver à un terme. Mais Jacob comprenait qu'il y avait autre chose après. Et de surcroît à ça, il savait aussi qu'il pouvait investir dans ses enfants et dans ses petits-fils pour continuer et percevoir l'accomplissement du plan divin. La Bible disait qu'il naîtrait d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, une grande multitude. Assurément, Jacob avait un peu plus de fils qu'Isaac n'avait eu. Isaac en avait eu deux. Un peu plus de fils qu'Abraham en avait eu, puisqu'Abraham en avait eu un simplement pour la promesse. On se rend compte que Jacob, lui, en a 12. Mais 12 ne fait quand même pas une multitude. Alors Jacob comprenait que cette promesse allait être accomplie plus tardivement que dans sa propre vie, que de son propre vécu. Comprenons que parfois les promesses de Dieu s'accomplissent au-delà de notre vie. Les promesses de Dieu s'accomplissent au-delà du temps qui nous est imparti à nous, au-delà du temps, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Et c'est souvent là où notre foi vient à achoper. On se réjouit des choses qu'on est capable de voir de notre vivant. On se réjouit des petits-enfants, des petits-fils, des petites-filles que nos enfants nous donnent. Et si ça tarde, je connais plusieurs parents qui mettent de la pression sur leur fille, sur leur fils, en disant « Mais quand est-ce que tu me donnes un petit-fils, une petite-fille? » Donc, ils voient le temps passer et se disent « Il m'en reste de moins en moins, je veux voir la chose s'accomplir. » Jacob disait « J'ai pu percevoir un peu cette bénédiction, mais je sais que l'accomplissement réel et profond et parfait de cette promesse ne va arriver qu'après mon temps. » Et Jacob n'en est ni frustré, ni déçu, ni insatisfait. Au lieu de cela, il va approcher ou va faire approcher ses deux petits-fils et les bénir en proclamant sur eux la bénédiction qui avait été initialement proclamée sur Jacob, initialement proclamée sur Isaac ou sur leur père et grand-père, Abraham. Donc, pour nous, il est important aussi de savoir que le plan divin ne s'arrête pas à nous, mais que ça perdure au-delà de notre vécu. Si les choses tardent à venir, si les choses tardent à s'accomplir, est-ce que je me frustre? Est-ce que je me rebelle face à Dieu en disant « Mais tu n'as pas tenu ta promesse » et je me barre, je m'en vais? Ou est-ce que je peux voir que l'accomplissement de cette promesse n'est pas tributaire de mon vécu, de mon laps de temps qui m'est imparti ici-bas sur terre, mais que cette promesse peut s'accomplir au-delà du pourtour de ma vie? Alors, par la foi, Jacob, qui est en train de mourir, bénit la suite qui vient après lui. Il y a des gens qui ne vivent que dans le moment présent, incapables de penser et de préparer les choses qui viennent après eux. La foi nous permet effectivement d'inculquer foi, enseignement, connaissance dans la vie de nos enfants. Alors, par la foi, Jacob va investir au-delà de sa personne, au-delà de son vécu. La Bible nous dit, par la foi, Jacob bénit les fils de Joseph. Alors, par la foi, Jacob va bénir et proclamer qu'Éphraïm va dominer sur son frère aîné. Je vous mime la scène. Manassé, le frère aîné, est à la droite de Jacob. Éphraïm, le frère cadet, est à la gauche de Jacob. Ils ont été placés intentionnellement par leur père Joseph, à droite pour Manassé, à gauche pour Éphraïm, afin que celui qui se trouve à droite reçoive, comme le veut la tradition, la bénédiction du fils aîné. On se rappelle cette expression très biblique, mais en même temps très proche orientale, la droite de quelqu'un. Et on pense souvent que la droite est strictement l'image de ce qu'il y a géographiquement à droite de la personne. Lorsqu'on parle de la droite de Dieu, Dieu remplissant l'univers, remplissant tout ce qui existe, il n'y a pas une droite ou une gauche chez Dieu, puisqu'il remplit tout partout. La droite veut dire habituellement ou est symbole habituellement de l'autorité, de la prédominance et de cette place élevée qui est accordée à quelqu'un comparativement à la gauche. Habituellement, on favorisait la droite versus la gauche. Donc, on se considérait que il fallait être droitier, non pas gaucher, que la main droite était plus forte que la main gauche. Et à ce moment-là, lorsque venait la bénédiction, le fils aîné, le premier-né, était placé à la droite et les autres étaient placés à la gauche. S'ils étaient des jumeaux, comme dans le cas de Jacob et Ésaü, s'il y avait eu la bénédiction qui avait été faite en même temps, on aurait mis Ésaü à la droite, Jacob à la gauche. Et lorsque ça se passe pour les fils de Joseph, on va mettre à juste titre Manassé, le fils aîné, à droite et Éphraïm, le fils cadet, à gauche. Et là, c'est là que se passe la beauté de ce geste, ou la beauté de ce moment. Jacob, au lieu de maintenir les choses ainsi, va croiser les mains et bénir, mettre sa main droite sur la tête de l'enfant à gauche et mettre sa main gauche sur la tête de l'enfant à droite, en proclamant que le fils cadet allait supplanter le fils aîné. Jacob avait la foi que Éphraïm dominerait sur son fils aîné. Comment l'a-t-il su? Comment l'a-t-il reçu? Comment l'a-t-il perçu? Comment Dieu l'a-t-il averti? La Bible ne nous le dit pas. Mais Jacob, qui connaissait son Seigneur, va effectivement annoncer, prophétiser que l'un va supplanter l'autre, que le fils cadet va supplanter le fils aîné. Jacob a prié avec foi. Jacob a prononcé la chose avec foi. Cette assurance, dans la tradition, il aurait été logique de bénir Manassé plus amplement qu'Éphraïm. Les yeux humains voyaient un qui était plus âgé que l'autre, donc probablement un qui était plus avancé dans sa carrière, plus avancé dans sa connaissance, plus avancé peut-être même physiquement au niveau de la force. Alors les yeux auraient pu faire en sorte, et la tradition aurait pu faire en sorte que Jacob mette sa main sur l'aîné, mette sa main droite sur l'aîné et mette sa main gauche sur le cadet, mais il a délibérément inversé les rôles. Pourquoi? Parce qu'il priait avec foi. Il connaissait une chose, il percevait une chose, et il s'est soumis à cette chose. Contrairement à ce que son père, Isaac, avait fait dans son cas. Donc, par la foi, Jacob a béni, a proclamé qu'Éphraïm, le plus petit, serait finalement le plus grand. Qu'Éphraïm, le plus jeune, viendrait à supplanter son frère et viendrait à dominer son frère. Par la foi, Jacob ne tombera pas dans l'erreur de son père Isaac. Isaac savait. Isaac avait entendu sa femme lui dire, « Regarde, Dieu m'a dit que le plus jeune va supplanter le plus vieux. Dieu me l'a dit alors qu'ils étaient dans mon sein. » Isaac aurait dû se conformer à la volonté de Dieu, se conformer à ce qui avait été annoncé, à ce qu'il connaissait avant même la naissance des jumeaux. Mais Isaac a voulu s'opposer à la volonté de Dieu en gardant les choses selon la tradition. Son fils Jacob, lorsque le moment est venu de bénir Manassé et Éphraïm, ne tombera pas dans le piège dans lequel Isaac, son père, était tombé, ne fera pas l'erreur de son père Isaac, qui a tenté de passer sa volonté à la place de celle de Dieu. Jacob va dire, je ne tomberai pas dans ce piège-là. Je sais que Dieu me dit qu'Éphraïm sera plus grand que Manassé, qu'Éphraïm viendra à supplanter Manassé. Alors, je bénis comme Dieu veut que je bénisse. Je bénis selon la volonté même de Dieu. Je bénis selon le plan de Dieu. Je me conforme à cette volonté et non pas à la pensée humaine. Par la foi, Jacob va refuser de céder à l'insistance de Joseph, qui a voulu remplacer ou replacer la bénédiction paternelle selon la tradition du fils aîné. Joseph a vu que son père avait croisé les bras et va prendre la main droite de son père et l'amener vers Manassé, va prendre la main gauche de son père et va l'amener sur Éphraïm en disant « Mais non, mon père, bénis Manassé parce que c'est lui l'aîné. » Et Jacob va lui dire « Mon fils, je sais. Mon fils, je sais, mais crois-moi, je fais bien de croiser les mains. Je ne m'opposerai pas à la volonté de Dieu. » La foi a servi d'instrument d'instruction envers Joseph en lui disant, « Mon fils, ne me force pas à faire la même erreur que mon père. Ne me force pas à m'opposer à la volonté de Dieu. » Aujourd'hui, je t'enseigne à embrasser la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je t'enseigne à accepter la volonté de Dieu. Aujourd'hui, par ces mains que je croise, je t'enseigne, Joseph, à ne pas t'élever contre la volonté de Dieu, mais à l'accomplir délibérément, volontairement. Alors, mon fils, non. Je ne décroiserai pas mes bras. Ma main droite ira sur Éphraïm, le plus jeune, et je lui conférerai autorité sur son frère aîné. Le plus jeune viendra supplanter son frère aîné. Son frère aîné sera aussi béni. Il sera aussi une nation. Mais Éphraïm sera plus grand que Manassé. Ne me force pas à m'opposer à la volonté de Dieu. C'est par la foi que Jacob s'est soumis à la volonté de Dieu. C'est par la foi que Jacob a accepté la volonté de Dieu. C'est par la foi que Jacob a instruit Joseph quant à se plier et à obtempérer face à la volonté de Dieu. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, et on le voyait tout à l'heure dans Genèse, au chapitre 48, le verset 5. Jacob qui va dire à Joseph, « Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon, tes frères, sont aussi à moi. » Comprenons une chose. Joseph était marié à une femme égyptienne. Joseph avait grandi dans la maison du Pharaon. Les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, étaient tous deux des demi-juifs, des demi de la maison d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Ils étaient à moitié égyptiens. Et Jacob va dire, ces fils qui sont à moitié étrangers vont devenir mes propres enfants. Je les greffe à ma propre famille. Et remarquez-vous que dans l'ensemble des textes bibliques, jamais on ne va dire que ce sont des demi-juifs, que jamais on ne va dire que ce ne sont pas tout à fait de véritables membres de la famille. Par la foi, Jacob a béni les fils de Joseph, nés en Égypte, d'une mère égyptienne, et qu'il a adopté comme ses propres fils. Ça, c'était l'image de ces enfants que nous sommes, qui ne sont pas juifs de naissance, qui ne sont pas du corps juif, de la maison d'Israël de naissance, mais qui sont greffés à cette maison. Nous qui étions pécheurs, et de surcroît cela, nous qui étions païens, nous avons été greffés à la maison de Dieu, greffés à la famille de Dieu. Jacob, par la foi, a proclamé ce qui allait se passer avec nous, qui maintenant faisons partie prenante, ou qui sommes partie prenante du corps de Christ. Même si, au niveau sanguin, même si au niveau de la généalogie, on n'est peut-être pas juif, mais par adoption, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et j'aimerais m'arrêter sur un dernier point. La Bible nous dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. La foi va permettre à Jacob de faire ce qui est juste, de faire ce qui est adéquat. La foi va permettre à Jacob de se soumettre et d'obtempérer à la volonté de Dieu. La foi va permettre à Jacob, une fois le devoir accompli, de pouvoir adorer son Dieu. Vous voyez, lorsque nous désobéissons à la volonté de Dieu, on a cette difficulté à venir adorer Dieu. Alors que Jacob, qui par la foi s'est soumis à la volonté de Dieu, pouvait alors adorer son Dieu librement et en toute quiétude. Et pour nous, ça devrait être une instruction. À force de nous opposer à la volonté de Dieu, on se soustrait à notre communion avec lui. Jacob pouvait s'approcher de Dieu en dépit des fourberies qui avaient été les siennes durant sa vie, en dépit de la duplicité qui avait été la sienne durant sa vie, en dépit des mauvais coups qu'il avait faits durant sa vie. Il pouvait, là, au crépuscule de sa vie, s'appuyer sur son bâton et adorer Dieu parce qu'il avait fait ce qu'il devait faire, parce qu'il s'était soumis à la volonté de Dieu. Mais de surcroît à cela, et j'aime l'expression, il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il appuya appuyé sur l'extrémité de son bâton. Jacob était un homme, la Bible nous dit, calme, contrairement à Ésaü, son frère, qui était un chasseur, qui parcourait les contrées, qui était actif. On nous dit que Jacob préférait rester sous la tente, préférait rester à la maison, un peu un rêvasseur comme Isaac, son père, avait été. Alors Jacob n'était pas celui qui était connu comme le plus vibrant des gars. Par contre, Jacob était un bagarreur. Et la Bible nous le montre clairement dans cette bataille qu'il avait eue avec l'Éternel, en disant, regarde, l'ange de l'Éternel, je te laisse pas partir, à moins que tu me bénisses. Et il a attendu que Dieu le bénisse avant de le laisser aller. Mais rappelons-nous comment s'est passée cette bénédiction. Il lutte avec l'ange de l'Éternel pendant toute une nuit, jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel lui déboîte la hanche pour régler le problème, pour régler la chose. Et c'est là où son nom va aussi changer. Dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, pour une question de compréhension, j'ai changé son deuxième prénom par son ancien prénom. J'ai gardé Jacob, mais dans presque l'entièreté du texte que je vous ai lu tout à l'heure, on ne parle plus de Jacob, mais on parle d'Israël, son deuxième nom qui lui a été donné à la fin de cette bagarre avec l'Éternel. En disant, ton nom va changer, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, parce que tu t'es battu avec l'ange de l'Éternel. Et certains pensent que Israël veut dire qu'il s'est battu et qu'il a gagné. Non, Israël veut dire Dieu reste vainqueur. Alors même dans la bataille de Jacob, l'Éternel est resté vainqueur. Et vous savez quoi? La Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, il a boité. À partir de ce moment-là, la hanche déboîtée a eu des séquelles. C'est à partir de ce moment-là que Jacob a commencé à marcher avec un bout de bois, avec un bâton. Et rendu au crépuscule de sa vie, il accomplit la volonté de Dieu et il s'appuie sur son bâton. Ce bâton qu'il a depuis la bénédiction de Dieu, depuis la promesse de Dieu. Il s'appuie sur ce bâton et il adore Dieu en se rappelant au crépuscule de sa vie. Seigneur, mon Père, éternel, tu m'as béni. Tu as tenu promesse. Tu m'as béni. Lorsque tu regardes le parcours qui a été le tien jusqu'à présent, peux-tu reconnaître la provision de Dieu? Peux-tu reconnaître la bénédiction de Dieu? Et t'appuyant sur cette bénédiction, te tourner vers Dieu et l'adorer. C'est par la foi que Jacob, mourant de façon docile et obéissante, a béni les fils de Joseph. Éphraïm le plus jeune, comme devant dominer sur Manassé, son aîné. C'est par la foi que Jacob a accepté la volonté de Dieu, a accompli la volonté de Dieu, et puis a pu adorer son Dieu. C'est par la foi que Jacob a pu adorer son Dieu en disant, « La promesse n'est pas pleinement accomplie, mais je t'adore parce que tu me permets. » Tu permets à mes yeux, tu permets à ce vieil homme que je suis rendu aujourd'hui d'avoir expérimenté ta grâce comme tu l'avais promise. Alors prions. Merci Seigneur parce que Jacob a appris des erreurs de son père. Jacob a appris à ne pas faire comme Isaac, s'opposant à la volonté céleste, mais en à l'embrasser, à la promulguer, à la proclamer, à l'enseigner, à la mettre en exemple pour Joseph. Merci Seigneur parce que par la foi, Jacob ne s'est pas soumis aux traditions de cette terre, aux traditions environnantes. Lorsque placé entre les traditions de cette terre et ta volonté, il a adopté, embrassé, pris comme pour lui ta volonté et s'y est soumis délibérément. Et aujourd'hui, Seigneur, cette foi qu'il a exprimée à travers son obéissance nous sert à nous aussi d'exemple. Parfois, tes plans ne sont pas ceux que nos yeux contemplent. Parfois, tes plans vont à l'encontre de notre compréhension, voire même à l'encontre de notre volonté. Seigneur, tes plans allaient à contresens de la pensée de Joseph qui a voulu ramener dans l'ordre l'ordre qu'il pensait que ça devait être la prière de son père. Merci Seigneur de nous apprendre à nous soumettre à ta volonté, même lorsqu'on ne comprend pas, même lorsqu'on n'est pas friand de la chose. Je prie Seigneur pour moi-même, mais je prie pour ma sœur, pour mon frère, que nous puissions apprendre à nous soumettre à ta volonté, à embrasser cette volonté et à le faire de façon visible comme un instrument d'instruction et d'exemple pour les autres. Jacob n'a pas répété l'erreur de son père. Je prie, Seigneur, que nous ne répétions pas les erreurs de ceux qui nous ont précédés, mais qu'à l'instar de Jacob, nous puissions servir d'exemple et d'instruction quant à la soumission parfaite, pleine, intentionnelle, consciente à la volonté de notre Père Céleste. Afin, Seigneur, que nous ayant soumis, on puisse pleinement profiter de notre temps avec toi, t'adorer en toute liberté et contempler les grâces que tu as répandu sur nous jusqu'à ce jour. Alors je prie, Seigneur, pour la soumission de ma sœur, pour la soumission de mon frère à ta volonté. Je prie, Seigneur, pour que mon frère et ma sœur, à cause de la foi qui les habite, puissent décider aujourd'hui de ne pas aller à l'encontre de ta volonté. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle, ce soir, on est mercredi, donc ce soir, il y a étude biblique à l'église et puis aussi sur toutes les plateformes Internet qu'on utilise habituellement. Mais je vous conseille d'être là à l'église, c'est toujours plus agréable. Alors que Dieu vous bénisse et nous, on se retrouve demain matin pour une autre bénédiction matinale. Au revoir tout le monde.